France Inter.
7h30, le journal de Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour. La pub pour les livres à la télé, c'est non pour Antoine Gallimard. Info France Inter, le patron de la grande maison d'édition se dit contre le décret qui autorise la publicité pour les livres sur les chaînes de télé hertziennes. Les urbains ont-ils vraiment fui les villes après le Covid? Pas tant que ça, nous apprend une étude. Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu en Chine. Il va devoir jouer l'équilibriste pour rester aligné avec ses alliés européens. Dans ce journal également, un tribunal est à vendre en Creuse. Et puis en tennis, plus de Français en demi-finale des Masters 1000 de Monte Carlo, mais un beau parcours pour le numéro 1 français, Hugo Humbert.
À 7h50, dans les pays en guerre, dans les rapports sociaux et même devant les collèges, dans les hôpitaux et au sein des familles, la violence semble partout. Comment l'expliquer? Quel remède proposer? Élément de réponse avec le philosophe Marc Crépon qui publie 7 leçons sur la violence chez Odile Jacob.
France Inter.
Gallimard ne veut pas de pub pour les livres à la télé.
Une semaine après la publication du décret qui autorise la publicité pour les livres sur les chaînes de télé hertziennes, Antoine Gallimard prend la parole. Le patron de la grande maison d'édition du même nom réclame l'abrogation de ce décret. C'est une info France Inter. Le monde de l'édition a été pris de court et ne veut pas de ce décret car il y voit un danger pour la diversité éditoriale. Ilana Mor-Youssef.
C'est peu dire que ce décret a frappé de stupeur le monde de l'édition qui n'en voulait pas et qui l'avait dit. Pourquoi ? Parce qu'il crée une distorsion entre les gros et les petits. Seules les grosses maisons d'édition pourront payer des pubs pour leurs livres à la télé et même les éditeurs qui peuvent les payer auront tendance à le faire pour des auteurs qui se vendent déjà très bien. D'où une menace évidente pour la diversité éditoriale selon Antoine Gallimard. Le président du groupe Madrigal demande l'abrogation de ce décret.
On est très surpris que ça soit arrivé comme ça, brutalement. On avait toujours dit qu'on était contre tous les éditeurs au nom de la diversité. Vous mettez 3 livres, 4 livres en avant pendant que 40 derrière n'auront le droit à aucune information. C'est pas juste. Nous sommes l'un des premiers pays à avoir autant de propositions d'ouvrages et il faut absolument sécuriser cela. Et donc je pense qu'il y a urgence à ce que ce décret soit retiré et qu'on puisse travailler tranquillement sans être percuté par des grosses campagnes qui détruiraient notre marché dans sa diversité.
Selon nos informations, le syndicat national de l'édition est sur la même ligne et ne devrait pas tarder à le faire savoir. Au lieu de prendre ce genre de décision, dit Antoine Gallimard, le gouvernement ferait mieux de pousser pour qu'il y ait plus d'émissions littéraires à la télévision publique.
Et à 8h20 sur France Inter, à l'occasion du Festival du Livre qui bat son plein le Québec et la langue française seront à l'honneur avec l'autrice féministe Martine Delvaux et la poétesse et écrivaine québécoise Hélène Dorion. Vous êtes peut-être parmi les chanceux en vacances à partir de ce week-end. La zone A rejoint la zone C. Des vacances à la campagne ou à la mer qui peuvent parfois rappeler la période Covid, quand les urbains fuyaient les villes et les appartements au point que les petites villes et les zones rurales y voyaient leur revanche. Mais 4 ans plus tard, une étude de la Fondation Jean Jaurès et de l'Institut IFOP révèle que les comportements n'ont pas radicalement changé. Agnès Soubiran.
Disons que les confinements ont amplifié des comportements qui existaient déjà, comme Gaëlle, mère de 3 enfants, partie se confiner dans la maison de vacances près de Saint-Malo et qui n'est jamais rentrée à Paris.
Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus facile pour les enfants d'habiter au bord de la mer. Et j'ai trouvé une organisation de travail, donc je vais à Paris tous les 10 jours, pendant 4 jours, et je télétravaille le reste du temps.
Les cadres ont ainsi réalisé le fantasme de vivre sur leur lieu de vacances, analyse Jérôme Fourquet de l'IFOP. La carte des cantons dont la population a le plus augmenté entre 2017 et 2021, montre ainsi clairement une attractivité pour la façade ouest. Pour le reste de l'Hexagone, et notamment la diagonale du vide qui va de la Meuse aux Landes, la situation s'est aggravée mais peut encore changer, estime le géographe Sylvain Manternac.
L'étape d'après, elle peut s'ouvrir pour ces territoires-là, mais il faudra de toute façon se rendre attractif parce qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui sont plutôt en perte de population et il est peu probable que tous se re-remplissent d'un coup. Il y a peut-être certains qui sauront tirer leur épingle du jeu. Ça dépendra de tout le tissu local et sa capacité à se mobiliser pour attirer du monde.
Et pour attirer de nouveaux habitants, les communes doivent travailler leur offre de transport, de formation, d'activité. Un chantier coûteux et de longue haleine.
Agnès Soubiran. Les ressortissants français sont priés par le Quai d'Orsay de s'abstenir impérativement de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Les États-Unis annoncent envoyer des renforts au Moyen-Orient face à la crainte d'une attaque d'Israël par l'Iran. L'Iran qui accuse Israël Israël d'avoir détruit début avril son ambassade à Damas en Syrie et menace depuis de riposter.
Olaf Scholz est attendu en Chine.
Le chancelier allemand entame aujourd'hui une visite de 4 jours, un déplacement délicat sur fond de relations commerciales très tendues en ce moment entre Pékin et l'Union européenne. C'est donc un exercice d'équilibriste qui attend Olaf Scholz, car les Allemands restent très dépendants de la Chine sur le plan économique, tout en devant aussi rester alignés sur les positions européennes. Explication à Pékin, Sébastien Berriot.
En 2022, le chancelier Scholz avait été le premier grand dirigeant occidental à revenir en Chine après le Covid. Une visite critiquée à l'époque, Olaf Scholz avait été accusé de vouloir faire cavalier seul pour défendre l'économie allemande en laissant volontairement de côté les sujets sensibles, à commencer par la proximité des Chinois avec Vladimir Poutine. Cette fois aussi, il sera beaucoup question d'économie. Le chancelier arrive avec une délégation de grands patrons, mais Olaf Scholz sait que ses faits et gestes seront observés de très près par la Commission européenne qui, au contraire de l'Allemagne, a choisi la manière forte en lançant plusieurs enquêtes anti-subventions contre Pékin et en défendant la doctrine du de-risking qui consiste à réduire les risques et la dépendance vis-à-vis de la Chine. Le chancelier va tenter un exercice délicat en jouant sur deux tableaux, ne pas froisser d'un côté son premier partenaire commercial tout en restant dans la ligne défendue par l'Union européenne. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
32 000 personnes sont descendues dans les rues aujourd'hui de Nouméa en Nouvelle-Calédonie avec d'un côté 15 000 manifestants indépendantistes et de l'autre 17 000 non indépendantistes. Les deux camps s'affrontent sur l'élargissement du corps électoral en vue des prochaines élections provinciales. Les indépendantistes y sont opposés. Le projet de loi constitutionnelle propose d'ouvrir le corps électoral aux personnes résidant sur le territoire depuis au moins 10 ans. Il est en cours d'examen au Parlement. On y revient dans le journal de 8 heures. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, Ali et Marion, mais un tribunal est à vendre sur le Bon Coin.
Pourquoi pas ?
Où est-il ?
C'est la mairie justement de Bourganeuf en Creuse qui cherche à céder l'ancien tribunal d'instance de la ville à l'abandon depuis 2009. Sa restauration coûterait trop cher. Prix de vente 30 000 euros et sur le site de vente en ligne, l'annonce cartonne. Julien Morcelli.
Depuis le dépôt de l'annonce sur Internet il y a un mois et demi, Marie-Hélène Pouget-Chauva enchaîne les visites. Elle est chargée de la culture et des finances pour la ville de Bourganeuf.
On a eu une vingtaine de demandes de visites.
Mais toutes ne sont pas sérieuses.
C'est-à-dire des gens qui veulent passer le dimanche après-midi ou une bonne petite visite, voilà.
Alors elle organise des visites groupées. Il faut dire que l'édifice construit dans les années 1850 a de quoi attirer.
Il y a une belle salle d'audience avec les balances de la justice, 418 mètres carrés. C'est une belle pièce architecturalement.
La mairie dit être consciente que c'est toute une partie de son patrimoine qu'elle s'apprête à céder, mais elle n'a pas l'argent pour le rénover.
C'est une catastrophe, quoi. Plus de 600 000 euros de travaux. Hein. On peut avoir un petit héritage, ok, mais nous, il nous en est tombé un gros, et un gros en mauvais état. Donc, on fait des choix, hein. On est obligé.
La ville de Bourganeuf assure qu'elle privilégiera un projet qui conserve l'ancien bâti. Le futur acheteur du tribunal sera choisi en conseil municipal avant l'été.
Alors, n'hésitez plus, c'est donc à Bourganeuf dans la Creuse. En tennis, les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, c'est cet après-midi. Yannick Sinner contre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic contre Casper Ruud. Pas de dernier carré donc pour Hugo Humbert, le numéro 1 français et 15e mondial a été éliminé hier en quart, battu en 3-7 par le Norvégien Casper Ruud, 10e mondial. Mais pas de quoi faire oublier le très bon parcours d'Hugo Humbert à Monte-Carlo, où jusqu'à cette année, il n'avait jamais gagné un match. Le Français a donc franchi un cap, Fabrice Abgral.
Car c'était son premier quart de finale en Masters 1000 sur terre battue, ce qui est loin d'être sa surface préférée parce que lui, c'est plutôt un joueur de surface rapide. Mais sur terre battue, comme il l'a montré à Monte Carlo, ce gaucher de 25 ans ne cesse de progresser. Et tout ça sous l'impulsion de son entraîneur, l'ex-joueur Jérémy Chardy.
J'essaye de faire de son mieux tous les jours et terre battue, c'est pas sa surface, mais il écoute vraiment très bien. Je sais ce qu'il fait à l'entraînement, comment il est pro dans tous les domaines. Donc quand il y a quelqu'un qui est à 100% dans son projet, qui fait dans tous les domaines, tout pour son tennis et que la priorité c'est son tennis, c'est toujours plus facile et pour l'équipe c'est sympa de travailler avec lui.
Grâce à son parcours à Monte Carlo, Hugo Humbert va devenir 13e mondial, le meilleur classement de sa carrière. Le top 10 se rapproche, mais le Messin n'en fait pas une fixation.
Ça change rien, moi je faisais un truc pas possible du top 20 déjà et puis j'en ai parlé avec ma psy, puis quand j'ai intégré le top 20 je me suis dit bah ok en fait ça change rien, je suis le même gars, c'est juste un numéro, ça change toutes les semaines, voilà, si un jour je suis top 10 je serais super content. En tout cas je me sens prêt à l'être, c'est juste une une question de temps.
Et si c'est le cas, Hugo Humbert deviendra le 13e Français à intégrer le top 10 mondial. Il n'y en a plus eu à ce niveau. Depuis 3 ans et demi, le dernier, c'était Gaël Monfils en octobre 2020.
On termine avec un mot du foot. Metz respire un peu en Ligue 1 grâce à sa victoire face à Lens hier soir 2-1. Lens qui voit donc s'éloigner encore un peu plus la perspective de la Ligue des Champions.
C'était le journal de Laura Dulieu. À suivre l'édito écho, Alexandra Ben Saïd a scrollé sur le nouveau TikTok et puis portrait de l'éclipse totale de soleil dans la chronique, on va en reparler.